Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde.
Bonjour à vous sur RDIWA 107.5. La pensée des peuples s'interroge. Qu'est-ce qu'être un homme ? Tu n'es rien qu'un homme, d'Élysée. Tu traînes ta vie aux quatre vents, brûles tes ailes au soleil brûlant. Tu ne dis rien de tes mystères, de tant d'amour et de galères. Tu vis, tout simplement. Rien qu'un homme qui cherche la lumière, rien qu'un passant sur un chemin glissant. Rien que d'amour, tu es ma lumière, rien de plus, pourquoi, comment. Chante-moi tes rêves, chante-moi tes joies. Danse-moi tes mots, danse-les tout bas. Viens et poursuis la route où mènent nos pas. Devine mon âme, mon petit cœur de soie.
Notre bite et nos couilles pèsent des tonnes. Et c'est quelque chose qui nous pèse à tous les moments de notre vie, depuis la plus tendre enfance jusqu'à la mort. C'est quelque chose qu'on trimballe derrière nous. C'est un système stupide.
On se dit plus on est fort, plus on va être un homme. Même si on prend, une branlée, ben voilà, on y retourne, au moins on a fait face, on a été un homme. Voilà, est-ce que si quelqu'un nous invite à se battre et qu'on n'y va pas, on n'est pas un homme. Et ça, c'est un déshonneur, ça. Je préfère mourir que vivre ça. Ah ben, bien sûr. Faut vivre une heure comme un lion que son temps comme une chèvre. Hein.
Je me bats contre la virilité. En fait, je pense que la virilité est quelque chose qui a été construit, qui a été ajouté aux hommes, et que le monde se porterait beaucoup mieux si on enlevait ce truc-là. Il faut prendre conscience du poids que représente la virilité chez nous les hommes.
Sois un homme, ça oui je l'ai entendu. Sois un homme, sois fort, tu dois être capable de te contrôler. Secrètement, je pensais que j'étais pas complètement un homme, que je n'aurais pas de poils comme tout le monde, comme ce que devrait être un homme, que j'aurais pas suffisamment de force, que j'avais un cœur probablement, j'imaginais, à l'intérieur qui était plus petit. Je me souviens que j'essayais de prendre mes côtes parce que je trouvais que j'avais la taille trop fine et j'essayais de les écarter. Une fois, je me suis même fait très mal. Et donc à côté de ça, je me disais, sois un homme, mais bon, j'avais le sentiment que ça, c'est pas possible.
Mon père, il me disait tout le temps ça. Pourquoi pleurer dans la vie? T'es un garçon. Donc les gens, ils veulent qu'un garçon, ça pleure pas. Mais des fois, ça pleure. En cachette. À la maison, tout seul. Pas devant les gens, parce que ça donne une mauvaise image du garçon. Si on n'est pas content, on peut le montrer. Parce qu'être pas content, c'est être fort, entre guillemets. Enfin, être énervé. Bah, quand on est énervé, des fois, on est fort. Donc montrer qu'on est énervé, c'est moins grave que montrer qu'on pleure ou qu'on est fragile.
Je lui dirais, sois fort, ne pleure pas. On va se dire oui, mais c'est toujours les codes de la société, etc. Mais si je lui disais le contraire, j'ai peur qu'on se moque de lui dans la cour de récréation. J'ai pas envie que mon fils soit le souffre-douleur de la cour.
Moi, j'étais un enfant battu, surtout par mes camarades. Ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de ne pouvoir rien faire face à la force au sens... Justement, à la force au sens viril du terme. C'est-à-dire, vous êtes à la sortie d'école, vous êtes avec votre cartable, on vous le vide, on déchire vos affaires. On est en plein hiver, et ils vous soulèvent, et vous êtes rien, et vous revenez chez vous, plein d'eau, ayant été écrasé, n'avoir rien pu faire. avoir été frappé, voire une fois, je me souviens, on m'avait pissé dessus. Donc c'est juste cette espèce de sentiment d'impuissance, d'humiliation, de devoir tout le temps être à genoux, de vouloir éviter le coup.
Il existe un modèle de vrai homme, et ce vrai homme, c'est le plus fort. Et c'est celui, et en tout cas pour les hommes, c'est celui auquel vous devez ressembler. Et si vous n'êtes pas un vrai homme, vous n'êtes pas un homme.
Allez, sois un homme.
Lève-toi.
Debout.
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 Redresse-toi. On n'est pas faible.
On n'est pas faible.
On est fort.
Fort. Serre les dents. T'as mal ?
T'as mal ?
Je veux pas entendre ça, moi.
Allez, t'as pas
Allez,
mal.
Allez, t'as pas mal. T'es un homme.
Allez, sois un homme.
Sois un homme. Ne renonce jamais.
T'es pas une mauviette.
T'es pas une fiotte. Il n'y a pas de place pour les faibles.
Saisis-toi.
Sois un homme.
Affirme-toi.
Un vrai mec.
Un vrai. Oh. Ne doute pas.
Si tu pleures, cache-toi.
T'es un mec ou pas ?
Contrôle.
Bande.
C'est les filles qui pleurent.
T'es pas une femme, un vrai mec.
Ok.
Je ne suis pas viril, de Ben Nevers. Virilité, ensemble des attributs et caractères physiques et sexuels de l'homme. Ce que l'on attend socialement d'un homme, un contrôle de ses émotions, qu'il soit puissant, fort, courageux, protecteur. La violence chez les garçons est banalisée. Elle est validée à chaque instant qu'on est dans la catégorie dominante des hommes, les courageux, les vaillants. Mes choix de vie, mes épreuves, n'ont pas fait de moi un homme plus fort, mais un humain plus confiant, plus à l'aise avec lui-même et plus serein concernant l'impact de ses choix sur sa vie. L'hypersensibilité et la masculinité, notion non genrée, pourtant beaucoup d'hommes n'acceptent pas cette étiquette, parce qu'on leur a interdit, de manière consciente ou inconsciente, un certain accès à la sensibilité. Socialement, on n'accepte pas le même degré de sensibilité chez les hommes et chez les femmes. Donc, selon le genre, l'hypersensibilité est considérée comme une atteinte à la virilité. Il reste encore une émotion acceptée socialement chez les hommes, la colère. Autre définition de la virilité, non féminin, accepter et assumer pleinement qui on est.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils à terre et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité, abusive. mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Un homme doit être fort, mâle, se faire place au soleil, lutter contre les hommes. Henri-Frédéric Amiel. Conte du terroir algérien. Tu seras un homme, mon fils. Il était une fois un roi. Ce roi avait un vaste royaume. Il avait aussi un vizir qui lui était très dévoué. Pour le remercier et surtout pour l'avoir à ses côtés tout le temps, le roi l'installa dans une somptueuse demeure, dans l'enceinte même du château royal. La reine et la femme du vizir attendaient des enfants. Lorsque la reine mit au monde un garçon, la femme du vizir eut une fille. Le fki du palais bénit les deux nouveau-nés et suggéra que les deux enfants soient promis l'un à l'autre. Les enfants reçurent les mêmes soins de la nourrice du palais et les mêmes attentions de leurs parents. Ils grandirent en partageant les mêmes jeux, en apprenant avec le même enseignant. Ils grandissaient paisiblement, profitant de tous les plaisirs que leur offrait la vie de château. Quelques années passèrent, ainsi pour les deux enfants, dans le bonheur et la joie. Un jour, le prince alla voir son père pour lui dire « Père, je suis un homme ». Le roi répondit alors en souriant « Tu l'es un peu, mais tu dois le devenir pleinement. Il te faut apprendre beaucoup de choses encore. Ce que les livres et les sages t'ont enseigné, tu dois le vivre aussi. » Le roi comprit que le moment était venu pour que son fils aille par le monde, pour la rude expérience de la vie. Il était prince, certes, mais il devait devenir un homme, et surtout un roi. Le prince, armé de courage, partit pour un long voyage, avec une bourse et quelques provisions. Il promit à son ami de revenir plein d'usage et de raison, de vivre avec elle le reste de son âge. Il marcha le jour et se reposa de nuit. Il marcha et marcha encore au point que ses chaussures s'usèrent. Il s'aperçut qu'il n'avait plus de provisions ni d'argent, lorsqu'il arriva dans une ville qui venait d'ouvrir ses portes. Il demanda aux passants où il pourrait trouver un sage. On lui indiqua un pauvre logis où un homme entouré de ses livres l'attendait. « Je suis un voyageur qui n'a plus d'argent. Je voudrais travailler et surtout apprendre à être un homme. » Le sage le considéra un moment, puis lui dit « Voici un terrain, tu dois le transformer en terre cultivable. » Le jeune homme se mit aussitôt à la tâche. Il pulvérisa les rochers à coups de pioche, arracha les mauvaises herbes et les arbrisseaux. Il débarrassa les lieux de tous les animaux nuisibles, taupes, hérissons, serpents et autres. Il comprit combien était pénible le travail de la terre et que la vie d'un paysan n'était pas de tout repos. Tout en sueur et poussière, il alla retrouver le sage et lui dit « Ton travail est parfait. » Mais tu ne fais que commencer. Ton terrain est maintenant prêt pour d'autres travaux. Tu dois le labourer et le semer de graines. » Aussitôt, le jeune homme laboura le champ. Il le retourna profondément et dans les sillons jeta des graines pour l'ensemencer. Il sut combien était dur le labeur des travailleurs de la terre. Il alla rendre compte au sage qui lui dit « C'est parfait, mais tu n'es pas au bout de tes peines. Il te faudra attendre la saison des récoltes. Et si la nature est clémente, tu verras le fruit de tes efforts. » Le jeune homme se soumit au rythme de la nature, mais en attendant, le sage lui proposa de parfaire sa connaissance du livre sacré. Lorsqu'arriva la saison des récoltes, il voulut savoir par la bouche de son maître si après les travaux des champs, il pouvait se dire qu'il était devenu un homme. Le travail des champs, il le faut, mais il faut aussi planter des arbres. Le jeune homme obéit et planta des arbres qui formèrent une véritable forêt. Le maître lui dit alors « Taille des bâtons de tes arbres pour apprendre les arts martiaux. » Et le jeune homme obéit et reçut de la part de son maître l'art de manier le bâton. Ce fut un apprentissage dur et cruel, car le maître n'épargna aucun coup à l'élève, qui à son corps défendant comprit jusqu'où il pouvait pousser son endurance et les techniques du combat. « Et maintenant, maître, puis-je me vanter d'être un homme ? Le combat au bâton est un exercice de souplesse. Il te faudra maintenant apprendre le maniement des armes. Je t'en apprendrai les arcanes le moment venu.
Être un homme, c'est combattre la tête haute, le poing serré avec un regard sur ses fautes. Être un homme, c'est dire oui, je reconnais mes torts. Oui, j'ai déconné, ça me désole. Être un homme, c'est assumer le poids de ses mots. Se battre pour réussir, car le béton a ses roses. Être un homme, c'est aider son prochain. Ne pas se cracher dessus, porter l'avenir dans le creux de ses mains. Les hommes ne sont pas tous des infidèles. Mesdames, sachez-le, tous les hommes savent dire je t'aime. Être un homme, c'est prendre sur soi. C'est mesurer l'ampleur de ses faux pas. Un homme, ça prend sa mère dans le creux de ses bras. Ça se reconnaît dans l'attitude et dans le combat. Être un homme, c'est respecter sa parole. Dans la vie, chaque engagement a sa règle d'or. Un homme se doit d'avoir les épaules solides. Il réfléchit aux conséquences de ses folies. Être un homme, ce n'est pas faire le gangster. C'est être tolérant et côtoyer la rigueur. C'est jamais baisser les bras, c'est se battre pour décrocher la victoire. C'est jamais se lamenter sur soi, jeune homme, sois courageux, relève-toi. C'est jamais baisser les bras, c'est se battre pour décrocher la victoire. C'est jamais se lamenter sur soi, jeune homme, sois courageux, relève-toi. Un homme, ça assume le poids de ses actes. Ça différencie le bien du mal. Un bonhomme, ça prend les bonnes décisions. Travestis pas tes principes, est très important. Être un homme, c'est toujours être là pour elle, celle qui a fait de toi l'homme que tu es. Être un homme, c'est être là pour ses petits frères, présent pour leur soutien aux aides scolaires. Être un homme, c'est agir sans parler, fonder sa famille mais sans la déshonorer. Être un homme, c'est contempler le respect, c'est toujours avoir l'oreille pour écouter. Être un homme, c'est prendre soin des siens, savoir partager, savoir donner du sien. Être un homme, c'est combattre ses erreurs, faire du peur à ses ventres, ma douleur. Être un homme, c'est savoir dire ce qui est vrai, savoir faire l'effort de pardonner. Être un homme, en deux mots, honnêteté, discipline, la lâcheté est une chose indigne. C'est jamais baisser les bras, c'est se battre pour décrocher la victoire. Jamais c'est la montée sur soi, jeune homme, sois courageux, relève-toi. C'est jamais baisser les bras, c'est se battre pour décrocher la victoire. C'est jamais c'est la montée sur soi, jeune homme, sois courageux, relève-toi.
Les deux loups, par Jeff. Un vieil homme veut apprendre à son petit-fils ce qu'est la vie. En chacun de nous, il y a un combat intérieur, dit-il au jeune garçon. C'est un combat jusqu'à la mort, et il se tient entre deux loups. Le premier est ténébreux, il est la colère, l'envie, le chagrin, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi-même, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité. La supériorité, les mensonges, la fausse fierté et l'ego. Le second est lumineux, il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils réfléchit pendant un long moment, puis il demande à son grand-père : quel est le loup qui gagne ? Le vieil homme sourit et lui répond : celui que tu nourris.
Un homme viril, Il domine, il contrôle, il affirme sa puissance.
On a toujours des représentations sur le masculin et sur le féminin.
Passif, actif.
C'est toujours basé sur l'opposition.
Inférieur, supérieur. Nous sommes nous-mêmes aveugles à nos propres modèles de construction.
Un homme, un vrai. Film, publicité, jeux vidéo, série, pornographie. Compte de fait, sans qu'on s'en rende compte, ces images et récits influencent notre sexualité. Et la façon dont on se représente ce que c'est d'être un homme, un vrai.
Aujourd'hui encore, quand on dit un homme, un vrai, tout le monde a en tête les marqueurs virils de l'Antiquité.
Maintenant tu sais qui est ton adversaire.
Il y a la puissance physique. C'est la puissance guerrière. C'est quelqu'un qui doit avoir du courage et ne surtout pas avoir peur de mourir.
Tu m'entends toujours, mon chéri ?
Je t'entends.
Si tu savais comme je t'aime.
C'est la puissance morale, la faculté d'autocontrôle des émotions.
À la vérité. Pas pour moi.
Il y a aussi un marqueur de puissance sexuelle. Donc un homme viril, ça a des conquêtes et ça fanfaronne sur ses conquêtes.
Attendez-vous que je vous présente. Ephir is my friend, Serge, Rafi, Yvan.
Et c'est la paternité.
Nous serons les dieux que nous choisirons d'être.
C'est-à-dire qu'un homme viril est un père, mais il est aussi le paternaliste.
Ne pense rien. Il faut sentir.
C'est un ensemble d'injonctions qui sont quand même très coercitives. Tous les hommes n'ont pas les mêmes dispositions pour ça. Et c'est aussi un idéal très discriminatoire, parce que tous les hommes qui ne présentent pas les marqueurs de la virilité triomphale sont considérés comme des sous-hommes.
Casse-toi de là ! Ah, c'est la loi !
La virilité, c'est un idéal normatif, une construction qui vise à uniformiser en fait les masculinités en fonction d'un modèle unique, qui est le modèle viril.
On regarde et ce qu'on nous montre joue beaucoup dans les représentations qu'on se fait du masculin, du féminin.
C'est-à-dire qu'il va y avoir une représentation très construite de ce qui est un homme et de ce qui est une femme. C'est pas simplement on dit il y a des hommes, il y a des femmes, puis à la limite, non. C'est, on les oppose. Comme des polarités complètement en opposition et hiérarchisées.
La force, la volonté, la puissance, le charisme, l'ambition sont encore associés aux hommes.
C'est-à-dire qu'on va dire un homme est courageux, une femme est fragile et faible. Un homme est rationnel, la femme est irrationnelle.
Quel ennui avec cette femme, c'est qu'elle adore faire du bruit.
Les hommes savent faire des choses qu'elles savent, les femmes ne savent pas faire.
Regardez attentivement. Bon, à votre tour.
Donc on est vraiment sur des échelles de valeurs de féminin et de masculin. Et le masculin a toujours beaucoup plus de valeurs et le masculin viriliste.
C'est les Grecs qui vont inventer ce concept de phallos. Et le phallos, c'est le sexe en érection.
On sait tous à quoi ressemble un pénis, on sait le dessiner. Mais on le dessine toujours en érection. Pourtant, dans une journée, un pénis revêt le plus souvent une autre forme que celle de l'érection.
Je passais des heures assis à dessiner des bits. Je savais pas d'où ça venait, mais dès que je posais mon stylo sur une feuille, je me mettais à croquer des pénis.
Pourquoi c'est comme ça? Parce que le pénis est associé à la virilité, mais aussi à l'activité et à l'agressivité. Les pénis sont associés à des armes. C'est terrible comme représentation, et ça n'aide pas à aborder sainement sa propre sexualité.
l'érection a été considérée très tôt comme quelque chose qui émanait des dieux, qui était un signe d'élection divine. Et à l'inverse, la panne érectile a été considérée comme une malédiction, voire comme une punition divine.
Et ouais, alors pourquoi je prends pas, moi?
Le culte de l'érection, c'est la peur de la défaillance.
Les pires insultes pour les hommes sont celles qui ont trait à l'impuissance. T'es une lavette, t'es une couille molle. Donc des messages qui signifient, si tu ne pénètres pas tout ce qui bouge, tu n'es pas un homme.
Et je me ferai une salope, je me taperai sa copine, je m'enverrai tout ce qui bouge.
Parce qu'il suffit pas de dresser, il faut, comme on disait, entrer.
On y va. Je suis prête. Sois délicat et gentil.
Ce devoir d'intromission, ça implique des formes d'homophobie très particulières, parce qu'en réalité, l'homophobie, on se rend compte qu'elle porte surtout sur le corps pénétré, mais pas sur le corps pénétrant.
Enculé, enculé.
Enculé de Bécon, enculé de Bécon.
L'infamie, c'est de se faire pénétrer. Pourquoi? Parce que ça rappelle la féminité. On fait le ménage.
Beaucoup d'hommes ont peur de perdre leur rôle actif dans la société s'ils se donnent à quelqu'un.
Je vois que ce bon vieux Hank ne vous a pas suffi.
C'était pas pour moi.
Qui fait peur souvent aux mecs cis-hétéros de se faire pénétrer, parce que pour eux, probablement que c'est se faire dominer ou être soumis, et c'est dommage de passer à côté d'un orgasme aussi surpuissant.
C'est pas forcément grave de se faire enculer. Ce qui serait grave, c'est d'y prendre goût.
Bah oui.
Cette idée d'un vrai mec est basée sur des idées toxiques de ce que la masculinité devrait être. C'est contre-productif et même destructeur pour la psyché masculine, parce que les hommes pensent qu'ils doivent être comme ça, alors que pas du tout.
On a fini par considérer comme naturel, vrai et universel des choses qui étaient complètement construites et relatives. Il faut se souvenir que pendant des dizaines de millénaires, avant d'adorer un dieu masculin et un panthéon masculin, on adorait une grande déesse mère des origines à peu près partout à travers le monde. Dans la préhistoire, on n'avait pas compris le lien entre accouplement, procréation, fécondité. On voyait une femme qui accouchait toute seule. Et donc, on pensait qu'elle avait des pouvoirs surnaturels, puisqu'elle était capable de faire cette chose absolument miraculeuse, qui est de fabriquer un enfant toute seule. C'est beaucoup plus tard qu'on s'est mis à observer les animaux. Et donc là, l'homme a compris son rôle dans la procréation. Mais au lieu de considérer qu'il y avait deux pôles, il a dit en fait, la procréation, c'est moi. Tout à coup, tout ce système d'organisation va basculer pour être tourné autour du père. La société devient patriarcale, mais c'est important de rappeler qu'elle ne l'a pas toujours été.
Aujourd'hui, comment se comporter lorsqu'on est un homme? La question se pose aussi, bien sûr, pour les femmes. Et elle se pose aussi par rapport à l'hétérosexualité, par rapport à l'homosexualité. Comment se comporter? On n'est plus dans l'évidence, on se pose des questions, on est dans un monde problématique.
J'ai jamais...
Moi non plus.
Ok, mais... En fait, je voudrais que ce soit un moment spécial.
Mais pour moi, problématique est un terme positif. Parce que, au lieu de savoir d'avance ce qu'on est censé faire, eh bien, ça devient l'enjeu même de nos pratiques, de nos réflexions et de nos désirs.
Sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre.
Machisme, idéologie fondée sur l'idée que l'homme domine socialement la femme et qu'il faut, en tout, faire primer de supposées vertus viriles, comportements conformes à cette idéologie.
I don't want to set the world on fire.
Tu veux bien qu'on discute d'un truc ?
Les hommes,
tu sais, c'est le club où il y a la moitié de la population mondiale qui vit moins longtemps et qui a plein de principes rigides. Allô ? Oui ? Non, il est pas là. Quand on les observe dans leur environnement naturel, on se rend vite compte qu'il y a un truc qui a l'air de compter beaucoup. C'est qu'il faut être performant. Dans la plupart des cultures, on dirait que c'est issu d'une espèce d'héritage névrotique qui se transmettrait de père en fils. Et qui serait issu du besoin ancestral de se reproduire. Alors, si tu veux rester dans le club du gros paquet, d'abord, faut éviter de pleurer. Ensuite, faut pas avoir trop d'émotions visibles. Et surtout, faut savoir bander dur et sur commande. Parce que si tu fais pas tout ça, tu deviens une tapette. Ou une pédale. Et là, tu te fais refouler du club viril. Parce qu'ils ont peur d'être contaminés.
C'est bon, meuf. Les hommes, ils ont jamais galéré. Et puis c'est de leur faute s'ils badent tout seuls.
Ah ouais.
C'est sûr qu'on peut pas dire que le patriarcat, ce soit vraiment un choix de femme.
Mais faut dire aussi que les hommes ne sont pas tous individuellement à l'origine du concept.
Et que depuis des millénaires, le club des Kevin à gros menton s'est organisé pour s'automettre la pression et bien la foutre aux autres.
Par exemple, dans l'Antiquité, on racontait aux jeunes garçons le mythe de Priape. C'était un demi-dieu avec un énorme pénis toujours dressé qu'il fallait vénérer. Après, au Moyen-Âge, pour que tu aies toujours bien la pression, il arrivait parfois que les papas des deux mariés assistent à la nuit de noces. C'était pour faire des commentaires au cas où tu te trompes. Et pour vérifier que le contrat était bien consommé.
Coup de froid, souris !
C'est pour ta mère. Sinon, au XVIe siècle, en Occident, il y avait aussi les tribunaux de l'impuissance. C'était des endroits où, quand les épouses voulaient divorcer, elles pouvaient accuser leur mari de ne pas réussir à bander.
Allô, monsieur le juge ? Il est mou, là.
En 1657, le marquis de Langueil a même été convoqué devant un tribunal où on lui a demandé d'effectuer un exercice de pénétration pour prouver son impuissance.
Bon, allez, mon petit gars, on n'est pas toute la journée.
C'est encore plus petit que la dernière fois, chérie.
Fais coucou.
C'est pour ta mère. Allô ?
Oui ?
Condescendant ? D'accord, je le dirai. Et pour ceux qui n'avaient pas encore compris que la masculinité, c'est la performance, il y a aussi le docteur Serge Voronoff qui, en 1920, greffait des testicules de chimpanzés à des hommes jugés impuissants. À notre époque, il y a même des stages virilistes qui se développent pour rester dans le club des durs. Au programme, il y a 4 jours d'épreuves, comme par exemple monter sur des murs ou pousser des voitures en hurlant.
On va devoir passer les histoires de bizutage, de service militaire, parce que sinon on en aurait pour 3 heures. Putain, mais t'es qui ? Il est où le mec qui râle tout le temps ? T'es sa meuf ou quoi ?
Bon, je vais te dire un secret. Les hommes, ça vit des émotions, même en érection. Même que des fois, ça essaie de les dire.
Mais souvent, ça rate.
Bon, c'est sûr. Ce n'est pas forcément confortable pour tout le monde de naître avec un héritage de tyran patriarcal.
Bonsoir madame, maître Boutier. Je représente mon client François ici présent. Conformément à l'article XB12, voici les documents qui attestent que ce n'est pas un connard sexiste, même s'il est issu d'une société dirigée par les hommes.
Parce que la virilité, ça n'est pas un fait naturel. C'est une construction sociale arbitraire. Donc, après avoir compris que le système patriarcal, ça fabrique surtout des cons, et si on veut, en définitive, que les hommes évoluent, par exemple en apprenant le langage des mots avec la bouche, on pourrait leur expliquer que le patriarcat, ça les fait galérer aussi.
Bon, pas autant que nous quand même, hein. Mais un peu.
Et tout le monde s'en fout.
So, bongo, 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 I don't wanna leave the tango, no, 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 no.
Ça va ?
Non, mais me dis pas que tu l'as mise en ligne en plus.
Si, le mec au téléphone, il a utilisé le mot condescendant.
N'importe quoi.
Si, même maman, elle le disait. Tu veux jouer ?
Mais non, reviens ! Je vais te montrer une vidéo pour apprendre à gérer tes émotions.
Regarde comme je suis, un carré de points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi, ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi ? Un homme au pire, au mieux perdu. un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme, c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Moi je change tant de jeu, lancé je m'avance, je trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente, je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille, un peu de rien, un peu de folie, un peu loin, un peu ici, un peu rêveur, un peu spleen, un peu joueur, un peu clean, un peu là-haut, un peu froid, un peu chaud, un peu plus bas, un peu d'ego, un peu de sale, un peu de salaud, un peu de calme, un peu de candeur, un peu de vice, un peu de daron, un peu crise, un peu nature, un peu classe, un peu ou pas dans les cases. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi.
Serge Effes, on parle un peu de l'éducation. Quel est le rôle du père dans la virilité de son fils?
Le père, c'est un modèle, hein, forcément, comme la mère est un modèle. Là, vous avez une petite fille qui vous imite, qui vous copie, puisque vous êtes sa mère. Un petit garçon, il va plutôt avoir tendance à copier son père, même s'il prend aussi des morceaux de sa mère. Mais il y a quelque chose qui a changé, quand même, dans notre vision. C'est que les pères, ils sont beaucoup plus proches corporellement des enfants, maintenant. Ils les changent, ils leur donnent le biberon. Donc, ça crée un autre rapport, une autre intimité avec le corps du père. Et ça, c'est très important pour les garçons, parce que, justement, ça leur permet de ne pas se construire forcément avec une cuirasse. Hein, comme on construisait les hommes d'autrefois, on les construisait pour partir à la guerre. Hein, c'est pour ça qu'on en faisait des guerriers, on les aguerrissait, comme on dit. Donc aujourd'hui, d'avoir des pères finalement, justement, plus tendres, plus doux, eh bien, ça construit différemment les garçons, et je pense que c'est tant mieux.
Et alors, comment on s'approprie la virilité quand on est un petit garçon, si ce n'est pas forcément dans la transmission?
Mais on se l'approprie, justement. C'est une invention, aujourd'hui, la virilité. On voit bien que dans un groupe d'une trentaine de petits garçons, ils sont très, très, très différents les uns des autres. Il y a ceux qui sont les petits machos traditionnels, disons, qui vont donner des coups, et puis ceux qui vont être beaucoup plus doux et qui vont être beaucoup plus dans le dialogue. Mais ce qui est très intéressant dans la société d'aujourd'hui, c'est que tous ces garçons, ils peuvent coexister, finalement, sans qu'on les remette dans le droit chemin, finalement, sans qu'on les torde pour en former des petits guerriers.
Donc il n'y a plus qu'une seule façon d'être un homme, il y en a plein maintenant.
Il y a plein de façons d'être un homme, il y a plein de façons de l'assumer, et puis voilà, ça crée plein de couples aussi, avec des femmes et des hommes qui sont différents et qui ont des règles de vie différentes.
Le courage. Chaque jour, sans lever les yeux, la tâche est là, rituelle, évidente. Si dérisoire, si souvent. Longtemps, oh, si longtemps, rien ne semble changer. Il faut rester, les yeux rivés au sol. Quelque part, une aube se prépare. Philippe et Martine Delerme.
Les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 8. Un autre homme est possible.
L'autre jour, j'ai acheté pour mon petit garçon un maillot de corps rose avec une libellule sur le devant. On s'est moqué de moi. On m'a dit que j'en faisais trop, qu'il ne fallait pas exagérer. Mais je n'en peux plus des camions, des bennes, des scooters, des monstres et des crocodiles à dents longues. Pourquoi les garçons n'auraient-ils pas droit aux fleurs, aux jolis petits lapins, aux oiseaux souriants et aux paillettes ? Depuis sa naissance, mon petit garçon est considéré comme un homme en devenir. Il doit donc porter sur le torse et sur ses slips des signes correspondant à la virilité, la force et le courage. Mais comment peut-on réclamer le partage des tâches équitables, le consentement éclairé, l'empathie et la douceur si dès la naissance et les premiers bodys, on fait comprendre aux garçons qu'ils sont là uniquement pour se battre, décider et réparer des voitures ? J'aimerais que mon enfant sache qu'il n'a pas à être un super-héros ni un prince charmant protecteur pour être un homme. C'est ce dont j'ai voulu parler dans le podcast d'aujourd'hui. Parce qu'interroger les masculinités et leur construction est un enjeu féministe.
Investir son corps. Pas être un corps, investir son corps. Et écouter. Être attentif. Parce qu'il y a dans mon corps toutes ces choses qui sont plus grandes que moi. Est perçu comme masculin un corps ayant les attributs de la force, de la puissance. Donc oui, du muscle, des épaules sur lesquelles s'appuyer, des bras pour soutenir, porter, des mains pour saisir, construire, frapper, des poils pour réchauffer. Et un homme noir ? Ajoutez un immense pénis ébène, et vous avez une machine à fantasmes. La première chose qu'on voit de toi, c'est ton enveloppe, ton corps, et on projette des tas de choses dessus. Tu ne contrôles pas ce que les autres projettent sur toi. Certains de tes choix peuvent influencer le regard, mais on t'engage aussi pour ce qui t'échappe, pour ce qui transpire. Yann Gaël, journal d'un garçon noir.
Ce texte est issu du recueil « Marianne et le garçon noir » coordonné par Léonora Miano. Dans ce recueil, des écrivains, des artistes, des chercheurs racontent leurs expériences spécifiques d'hommes noirs. Cet ouvrage contribue à rendre visible la diversité des expériences masculines.
Un rite de passage est un rituel marquant le changement d'un individu, d'un statut socio-culturel à l'autre. Changement affectant le cycle de la vie individuelle. Rite d'initiation, mais aussi d'autres événements tels que la naissance, la mort, le mariage ou la ménopause. Ou d'autres situations ou non liées à des événements biologiques peuvent être traités par ce type de rituels sociaux. Le rituel a lieu la plupart du temps lors d'une cérémonie ou lors d'essais différents. Les rites de passage permettent de lier l'individu au groupe, mais aussi de structurer la vie de l'individu dans des étapes précises qui permettent une perception rassurante de l'individu par rapport à son caractère temporaire et avec sa mort.
On a conçu ce week-end pour que ça soit un rituel de passage pour des jeunes hommes qui veulent avancer dans leur vie d'adulte. C'est un moment privilégié, un moment où de jeunes hommes décident, accompagnés de leur père, de quitter leurs habits d'enfant pour rentrer dans leur vie d'homme.
C'est une initiation pour les adolescents. Ils sont dans une phase qui n'est pas facile dans leur vie. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils ne savent pas vraiment forcément qui ils sont non plus, où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Pendant ce week-end, nous essayons d'accompagner les jeunes, de leur donner du sens dans ce qu'ils vivent. Voilà, ce que je vis comme émotion, qu'est-ce que j'en fais, ce que je vis comme énergie, et qu'est-ce que je fais de mon agressivité.
Lors du passage, quand on pense à la vie, on pense à la vie future, on pense à balayer les choses du passé qui nous ont compliqué la tâche. Je dirais, écoute, c'est vraiment une merveilleuse occasion de prendre du temps pour toi, que ça va te permettre de mettre les choses au clair sur ce que tu veux, de par exemple... Les choses que tu te demandes, c'est peut-être ça que je voudrais faire dans ma vie, mais tu n'oses pas vraiment y aller, tu auras les clés pour te dire que c'est ça et assumer que c'est ta passion, que c'est ce que tu veux faire et que c'est ce que tu feras.
Une particularité, c'est qu'ils sont accompagnés de leur père, peut-être un oncle, un parrain, un grand frère. Les pères ensemble vont former le village. C'est le village qui va accompagner les jeunes dans leur processus.
on célèbre aussi la partie un peu sacrée des choses. Pour que ça ne soit pas quelque chose de banal, mais quelque chose qui marque aussi le passage de la vie de ces jeunes hommes.
Ils se retrouvent dans un espace un peu vide où ils peuvent observer ce qui se passe pour eux. C'est autour du feu, dans la nature, que les hommes se sentent à l'aise de partager. Les histoires, en fait, transmettent beaucoup de choses aux autres hommes et aux jeunes. Un homme qui ouvre son cœur, plus vulnérable, plus sensible, donne aux jeunes une autorisation qu'ils n'ont peut-être jamais eue.
Alors d'abord, j'ai fait le week-end pour moi. Ça a été une épreuve qu'aujourd'hui, je suis très content d'avoir passée. Une épreuve qui m'a fait beaucoup avancer dans ma vie, qui m'a posé de bonnes bases. Et aujourd'hui, je reviens en tant qu'encadrant pour aider les pères et les fils à le passer dans les meilleures conditions.
Il y a une réparation qui se fait pour les pères qui accompagnent, à savoir, en fait, oui, j'ai accompagné mon fils et je le vois grandir en tant qu'homme.
Les mères aussi, qui ne sont pas présentes, en tout cas dans ce week-end, changent complètement leur regard sur leur fils. Et là aussi, ça change tout.
Je suis venu chercher avec mon fils Elliot, en fait, pour qu'il prenne sa vie d'homme en main, savoir un peu mieux qui il est. C'est vraiment l'idée d'un passage. Donc, en un week-end, des fils arrivent, des hommes repartent.
Comment saurons-nous que nous avons réussi le passage?
Ils nous disent déjà, dès la fin du week-end, qu'ici, dans cet espace-là, ils ont osé prendre la parole. Ici, voilà, ils ont allégé le sac à dos.
Ils disent, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance dans les hommes, j'ai plus confiance dans la vie.
Heureux est l'homme, François Malaval. Heureux est l'homme doux, car lui seul se possède. Il règne sur son cœur et sur le cœur de tous. En son front, en son geste, en sa voix si douce, il est des mots d'autrui, le charme et le remède. Heureux l'homme désolé qui, d'une sainte tristesse, sait pleurer ses péchés. Il les noie en ses pleurs. Dieu le comble de joie au plus fort de ses douleurs. Ses larmes sont des regrets et non pas une faiblesse. Homme, sois content et joyeux au milieu de tes peines. Dieu compte tes frayeurs, tes larmes et tes soupirs. Il t'accueillera au paradis parmi tous les martyrs. Ta récompense est prête et les insultes sont vaines.
I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. The end of the day, you cannot change me, boo. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. And I know, oh, 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 even though, oh, 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 you try to take me down, you cannot break me, nah, nah. Toutes ces fois, fais comme si, fais comme ça, moi je n'ai qu'à la part. You will never remove my crown.
Who are we? When we hurt, when we fight for free. Only God can judge you and me. Ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. On choisit son travail, sa coiffure, ses amis. Sa routine, parfois l'amour aussi. Ça passe, ça casse, mais ça regarde qui. Shining bright, I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi.
Les archétypes masculins. Qu'est-ce qu'un archétype ? Les archétypes sont des images symboliques, des figures dynamiques, des énergies universelles, qui nourrissent notre inconscient et peuvent nous permettre d'explorer notre propre fonctionnement et notre propre psyché. Ils ne sont pas appréhendés comme des caricatures figées, mais comme des représentations de différentes parts de nous-mêmes. Nous pouvons nous reconnaître très fortement dans l'un et beaucoup moins dans l'autre. Mais nous les portons tous plus ou moins en nous. Pour ce qui est du masculin, il existe plusieurs figures archétypales, mais nous allons nous concentrer ici sur quatre principales : le roi, le guerrier, le magicien et l'amant. Certaines figures sont porteuses d'énergie plutôt masculine, yang, et d'autres plutôt féminines, le yin. Ainsi, chaque homme est invité à honorer à la fois ses parts de masculinité et ses parts de féminité. Équilibrer ces quatre archétypes entre eux peut vous permettre de vous sentir plus en harmonie avec vous-même, d'explorer et d'accepter des facettes de votre personnalité que vous mettez peut-être en veilleuse. La vulnérabilité et la sensibilité sont par exemple souvent perçues comme une faiblesse dans notre société, alors qu'elles peuvent être le terreau de la force. Chez les hommes, comme chez les femmes, nous avons clairement surexploité certaines énergies au détriment des autres. L'archétype du roi. On peut rapprocher cet archétype de celui du père. L'énergie archétypale du roi peut être considérée comme le squelette, à partir duquel les trois autres archétypes vont venir s'articuler, comme une base, une charpente nécessaire au déploiement des autres énergies. Le roi est un homme bon, détaché de toute prise de pouvoir ou volonté personnelle, et se met au service de tous. La droiture, la stabilité et l'autorité sont des qualités qui lui permettent de garder un axe vertical entre le concret sur la terre, la vie quotidienne à régler et à ordonner en toute sécurité, et la sagesse universelle du ciel. Son énergie, yang, structure, organise et gère les projets ou le foyer. Use des mots pour remettre de l'ordre dans la bienveillance et la valorisation. Ne se laisse pas submerger par ses émotions, assure la sécurité et la stabilité de sa famille ou de ses proches. Agit pour le bien commun, est capable de prendre des décisions et de trancher. Perçoit tous les points de vue dans un conflit et apporte une réponse sans punir. Le guerrier tranche et se positionne rapidement. Il a conscience de ses propres limites et sait que la vie se solde toujours par la mort. De ce fait, le guerrier n'attend pas, mais agit avec détermination, sans se laisser distraire par des choses qu'il juge sans importance. Il est celui qui incarne pleinement la force vitale et qui avance. Il n'est ni dans l'excès, ni dans la domination. Il fait preuve de discernement et de clairvoyance. Le guerrier est vigoureux, dynamique. C'est un homme d'action à la fois combatif et protecteur. Il sait focaliser son attention sur un point précis, tout en restant alerte et réceptif à son environnement. Il agit à la fois avec précision et souplesse. Son esprit est affûté et fermement ancré dans son corps. Il est aussi un maître de tactique. Son énergie yang, dynamisme, action, protection, force, combativité, stratégie, loyauté, puissance et courage. Le magicien. Cet archétype est nourri par l'imaginaire présent autour des druides, des chamans, des sorciers, des guérisseurs. Il est l'héritier d'une sagesse infinie, détenteur d'un savoir technique et précis sur un sujet, et possède une connaissance mystérieuse ou ésotérique. Il vit entre les mondes, notre réalité physique et visible, et le monde invisible, des esprits. Il connaît la nature et communique avec elle. Il possède donc un grand pouvoir et agit avec mesure et nuance pour canaliser sa puissance. Il est le maître de l'ombre et de la lumière. Le magicien est un être solitaire qui apprécie s'isoler pour se plonger dans son monde et pour étudier. Son énergie, yin, connaissance, savoir, ésotérisme, sagesse, mystère, technologie, éducation, guérison, guidance, conscience et intuition. L'amant. C'est l'archétype de l'amour, de la vitalité, de la passion, du désir et de la sensualité. Il est connecté à ses cinq sens et jouit de tous les plaisirs de la vie à travers eux. Il est celui qui vit pleinement et qui aime être en vie. Ainsi, il nous apprend à nous émerveiller de ce qui nous entoure et à nous fondre dans le moment présent. Il nous relie à notre corps et à notre incarnation terrestre. L'amant aime l'art et la beauté. Il est passionné, empathique, doux et sensible, et ses qualités lui permettent de sentir qu'il fait partie d'un grand tout et qu'il est en lien avec chaque petit élément qui le constitue. Cette conscience lui offre une capacité de fusion avec la nature et les autres êtres humains. Sa sensibilité et sa grande empathie peuvent être cause de souffrance pour lui. Il se laisse davantage guider par son inconscient et par ses intuitions que par son intellect. C'est un idéaliste au grand cœur qui apporte joie, reliance et humanité. Son énergie yin, connexion à l'autre, reliance, désir, sexualité, amour, sensualité, douceur, joie et légèreté. Merci pour votre écoute et à bientôt.